Bonjour Ahmed Madani.
Bonjour.
Votre spectacle Je marche dans la nuit par un chemin mauvais se trouve actuellement à l'affiche du Théâtre de la Tempête jusqu'au 13 avril 2014. Une pièce magnifique dont vous êtes l'auteur et le metteur en scène. Une pièce sur la transmission, mais pas seulement. Alors, comment est née cette pièce?
Comment elle est née J'avais le souhait de parler de la jeunesse, de l'adolescence notamment, et de parler des promesses de l'adolescence, d'une certaine manière. C'est une période de ma vie qui a été extrêmement forte, où je me suis vraiment ouvert au monde. Et je voyais mes enfants qui arrivaient à cette période. Et puis, je me suis dit, tiens, voilà, il y a quelque chose à raconter de ce moment de nos vies. Et puis, je souhaitais également, puisque je suis dans une construction sur une écriture qui fait référence à l'histoire des 50 dernières années. Et donc, cette pièce pouvait s'inscrire dans ce dispositif d'une certaine manière. Et donc, je me suis dit, mais comment c'était pour les jeunes dans les années 50-60, jeunes hommes qui sortaient de la guerre 39-45 et puis qui allaient s'embarquer pour la guerre d'Algérie. Et qu'est-ce qui se passait? Comment ils éprouvaient cette promesse de la jeunesse, eux? Et donc, je me suis dit, voici un sujet qui rentre à la fois dans mes préoccupations actuelles d'écriture, et puis, de vie sociale au sein de ma propre famille. Et donc, je me suis dit, je vais parler de ces deux adolescents à 50 ans d'écart, et qu'est-ce qu'ils auraient à se raconter aujourd'hui?
Alors, pourquoi, selon vous, la transmission de mémoire est plus importante de nos jours? Bon, vous avez un petit peu défloré le sujet en disant que vous vouliez parler de l'adolescence, mais est-ce que pour vous, c'est d'autant plus nécessaire à notre époque d'en parler?
Je pense que, à la différence d'autres périodes de l'histoire humaine où les structures familiales étaient basées sur la vie agricole, en fait, donc sur le terroir, et donc du coup les gens vivaient longtemps ensemble dans un même village, dans une même maison, ils se transmettaient de père en fils, de fille en mère, enfin voilà, au sein de la famille, l'histoire se racontait, voilà. Les vieux étaient toujours au bout de la table, en fait, ils étaient jamais loin. Et voilà, ils parlaient de leur jeunesse. Ouais. Et aujourd'hui, les familles sont plus écartées parce que, tout simplement, il y a des déplacements, l'urbanisation des villes, les déplacements liés au travail, etc. Et les personnes âgées sont plus isolées, plus solitaires. Quand elles vivent à la campagne et que les enfants sont partis travailler à la ville, c'est le cas de mon personnage. Ouais. Donc les retrouver, c'est quand même des temps qui sont très marqués par les rites ou religieux ou sociaux. Enfin voilà. Donc du coup, aujourd'hui, c'est un sujet important parce que la jeunesse doit pouvoir aussi s'inscrire dans une continuité, dans une filiation. Et que cette filiation, elle est un peu interrompue. Voilà. Quand ils sont enfants, ils reconnaissent leurs grands-parents, parce que c'est les petits-enfants. Mais après, dès qu'ils arrivent à l'âge de l'adolescence, ils ont envie de s'écarter plus ou moins de la famille. Puis quand il y a de l'éloignement géographique, ouais. C'est encore plus difficile de retrouver les grands-parents. Puis après, la culture évolue à une vitesse considérable, les technologies, tout ça creuse des séparations. Et donc, moi, j'avais envie d'interpeller ça, la séparation.
Alors, vous avez montré à travers cette histoire, à mon sens, un point de vue objectif de l'horreur de la guerre, à travers les souvenirs de guerre d'Algérie vécus par Pierre, le grand-père. Vous semblez penser qu'on puisse s'avancer et se déterminer en acceptant certaines zones d'ombre du passé. Est-ce que ce postulat est pour vous une philosophie de vie?
Je pense qu'on doit se réconcilier avec soi-même. Voilà, donc, et puis qu'il y a des moments où c'est quand le conflit est vraiment là, c'est souvent difficile, il faut savoir le dépasser. Et puis, avec le temps, ben voilà, il y a des résolutions qui doivent se faire. Ces jeunes hommes ont vécu dans un silence tourmenté, dans l'oubli, souvent, et il y a des résurgences qui se produisent, et enfin, il y a, en tout cas, ça, il y a dans leur comportement, il y a des choses qui sont signifiées quand ils remontent dans le passé. Et que cette guerre, c'est une guerre de l'oubli, la guerre d'Algérie. C'est une guerre qui n'a pas été, voilà, qui est une guerre honteuse d'une certaine manière, dont il est difficile de parler. Et donc, oui, je pense que il faut se réconcilier avec soi-même. Et donc, dans cette pièce, les deux jeunes hommes, parce que ce sont dans le fond deux adolescents, à un moment donné, ils se retrouvent chacun dans ce moment-là de leur vie. Et pour avancer, ben voilà, il faut s'accepter, il faut s'assumer.
Oui, si ce n'est que Pierre, lui, il a vraiment des zones d'ombre terrifiantes.
Oui, mais il a l'âge aussi pour ça. Enfin, ça s'est passé à un moment où
Oui.
il était certes jeune, il y a eu le silence, et puis il n'a jamais plus parlé de ça. Et avant de partir, c'est bien pour lui de retrouver une espèce de sérénité, quoi.
Bien sûr.
Voilà, une espèce de paix, et d'avoir été entendu par quelqu'un qui ne porte pas de jugement sur ce qu'il a fait, qui est lié à de très nombreuses circonstances qu'on décortique pas totalement dans la pièce, qui n'est pas très important dans le fond, parce qu'on sait très bien qu'une guerre, il se passe toujours des choses horribles et terribles. Donc voilà.
Mais il semble porter un poids terrible, un fardeau, parce que c'était un ami.
Ouais, mais c'est tout le paradoxe et toute la schizophrénie des mécanismes de la guerre de cette époque-là, de l'armée française, qui engage ses troupes au début dans ce qu'elle appelait la pacification. Donc voilà, les appelés étaient devenus des enseignants, des infirmiers, voilà, donc des accompagnants, des animateurs, enfin voilà, ils aidaient d'une certaine façon. Puis à un moment donné, il y a le durcissement de la guerre, et du coup, ils doivent passer à autre chose, quoi. Donc ils doivent refaire leur métier de guerrier, voilà, et rentrer dans la violence. Et le paradoxe, il est là, c'est-à-dire que d'un côté, on tend quelque chose, on fait un don généreux, et puis de l'autre, on matraque. Et c'est la problématique de Pierre, qui est la problématique de beaucoup de soldats, c'est-à-dire que du coup, on aime quelqu'un. Et cet enfant, bah, c'est peut-être aussi le sien d'une certaine manière. Il a un rapport avec cet enfant qui représente. Donc voilà, du coup, on a de l'amour pour une personne et puis il va falloir lui faire du mal. C'est
Alors,
affreux, quoi.
moi, ce qui m'a enfin, choqué, enfin, c'est-à-dire étonné, c'est à un moment donné, il dit, moi, en fait, ça m'excitait.
Oui, mais c'est toute la question de ce que ça implique, la violence. Et donc, lui qui était plutôt un brave gars, qui n'avait pas de sentiments pervers ou méchants, il se découvre en lui un monstre.
Oui, c'est.
Et nous sommes tous dans ce cas-là. C'est-à-dire qu'on a une monstruosité en nous qui est extrêmement puissante et qu'il faut contenir de toute manière. Il faut apprendre à être. C'est ça l'éducation, c'est ça la culture. C'est sortir de cet état d'extrême potentialité de violence, d'agressivité qui est atavique. Et c'est pour ça que l'homme s'est constitué comme ça, de façon polémique, contre la nature, contre les autres, etc. Et donc voilà, donc quand ça ressort, il est étonné lui-même, mais d'éprouver un plaisir, il faut reconnaître quand même, ça l'excitait, donc c'était un plaisir, et il est il est presque plus bouleversé par cette émotion qu'il ressent profondément que par ce qu'il fait.
Ah oui, c'est terrible. Alors, c'est un ami, il doit se dépasser, il doit le torturer parce qu'on est en guerre, et finalement, ça l'excite. C'est vrai que c'est la
Oui, c'est
noirceur.
la noirceur, c'est oui, mais c'est profondément humain. Dans Méfiez-vous de la pierre à barbe, qui est une pièce que j'ai écrite il y a quelques années et qui raconte tout ça. Enfin, elle raconte exactement, puisqu'elle parle du génocide du Rwanda. Et puis, on a eu plein d'exemples, hein,
oui,
on a très récent. Donc, Rwanda, voilà, on va tuer son meilleur ami, parce que voilà, soudainement, il devient l'ennemi, alors que la veille, on partageait le repas ensemble dans une grande fraternité.
Rwanda, même combat que la guerre d'Algérie, hein, la France pudiquement met ça sous le tapis.
Oui, voilà, donc ben oui, parce que c'est il y a des intérêts supérieurs, c'est bien.
Alors, vous avez manié, à mon sens, bien sûr, les antagonismes dans cette pièce. Grand-père, donc par rapport au petit-fils, dans un conflit de génération, mais aussi le grand-père de souche gauloise, on va dire française, et le petit-fils d'origine algérienne par le père. Alors, pensez-vous que ces antagonismes constituent ce que vous appelez la chair de la vie? Parce que j'ai lu un petit extrait d'une interview. Est-ce que pour vous, c'est effectivement ces antagonismes qui font que, bah, voilà, c'est ça la vie, quoi, en fin de compte.
Oui.
C'est ces zones de, ce qu'on disait, ces zones de noirceur. Et
puis aussi que le monde nous réserve des surprises et des étonnements qu'on n'imagine pas.
Ouais.
Effectivement, les ennemis d'hier se retrouvent des amis le lendemain.
Ouais.
Et puis ils étaient des amis la veille d'être des ennemis et ainsi de suite. Et c'est étonnant parce que du coup dans l'histoire de la société française, elle s'est construite comme ça. Voilà. La France s'est construite en accueillant l'autre qui a pu être un adversaire, mais en fait après il est accueilli et puis il devient lui-même le Français qui porte l'histoire de la France. Comme vous dites, le grand-père est un Gaulois. Certes, mais le petit-fils est aussi un Gaulois, et que tous ces jeunes des quartiers populaires, dans 3 ou 4 générations, ça posera aucun problème de dire nos ancêtres les Gaulois, puisqu'ils auront intégré l'appartenance à l'histoire de France, et d'ailleurs le peuplement de la France s'est passé comme ça par couches successives d'immigration qui disent aujourd'hui nos ancêtres les Gaulois, enfin, ça ne choque absolument personne.
L'écriture de la pièce est étonnante, puisqu'elle manie donc l'aspect temporel de façon singulière. Ainsi, les personnages expliquent leurs réactions passées, alors que le début de la pièce se situe dans le futur. Pourquoi un tel parti pris ?
Mais c'est justement un travail sur la mémoire et sur l'histoire. Parce que déjà, la question qui est posée dans la pièce est la question de la mémoire. Et comment elle se mélange à l'histoire, à la grande histoire. Et donc, il y a la notion du temps. Elle est extrêmement présente. Il y a donc un mélange temporel déjà dans le récit, parce que quand le passé est réactivé, il devient du temps présent.
Oui, exactement. Oui. Et donc, dans un futur limité, puisque en fait.
Oui, on sait très bien que ça va se terminer, ça va s'achever d'une certaine façon. Mais il y a la possibilité de convoquer les morts et de les. Et ça, c'est vraiment c'est magnifique au théâtre, c'est que les morts prennent vie, prennent la parole. Donc du coup, ils annulent le temps. Le mort annule le temps dans un temps où le jeune homme, lui, continue de grandir puisqu'il est vivant. Vivre, c'est quoi? C'est se projeter dans l'avenir en permanence, c'est-à-dire que le présent disparaît à l'instant où il émerge et ça devient tout de suite du passé, mais l'instant d'avant, il était un futur, ce présent. Et c'est tout le jeu dans l'écriture qui permet de passer d'un temps à l'autre, et des fois on ne sait pas que nous sommes en train de glisser, de faire un glissement temporel. Et c'est très très joli, d'abord pour les acteurs, pour jouer ça, parce qu'ils se regardent jouer d'une certaine manière. Et puis pour l'auteur, c'était une très bonne astuce d'écriture, parce que ça m'a beaucoup aidé justement à répondre à cette question de la temporalité, de qu'est-ce que je convoque de ma propre mémoire, de ma propre histoire, et comment je le mets dans le présent d'une pièce.
Et pour le public aussi, parce qu'en fait il est pris à témoin. On lui explique, j'ai réagi comme ça, le personnage dit j'ai réagi comme ça parce qu'à cette époque, tout en sachant que on connaît la fin. à ce moment précis.
Oui, mais c'est aussi une pièce sur le théâtre. Est-ce que ça met en jeu? Est-ce que ça rend possible que le théâtre rend cette... puisque d'abord, c'est un temps hors du temps, le théâtre. C'est un espace hors de l'espace,
ouais.
tout en étant dans un lieu précis, dans un temps précis. Et qu'il permet... un dialogue avec le spectateur dont on n'est pas dupe en vérité, c'est-à-dire quand l'acteur sort du jeu et qu'il regarde le public et que le public se demande pourquoi il le regarde comme ça et qu'après il comprend que il est en train de lui parler à l'instant présent, du coup ça déstabilise aussi des situations qui auraient pu dans l'écriture sombrer un peu où il n'était pas très nécessaire de continuer le développement. Donc du point de vue scénaristique, c'est bien parce que ça m'a permis de créer beaucoup d'ellipses et de laisser aussi le spectateur avancer dans son imaginaire, de reconstruire l'histoire comme il l'entend et d'imaginer des suites potentielles à telle ou telle séquence. Et d'ailleurs, ça n'a absolument pas gêné le public, cette construction qui laisse beaucoup beaucoup de trous pour que l'imaginaire du spectateur soit en œuvre, à la différence du cinéma. C'est plus difficile au cinéma.
Et accompagné d'une très belle musique
qui ponctue. On a choisi vraiment de travailler sur un instrument qui est le piano, puis de citer un compositeur, Arvo Pärt, qui est vraiment formidable, John Cage aussi. C'est une façon d'étirer le temps.
Ça souligne très bien et très
laisser. Et ça me permet, moi, de parce que le temps, c'est. Je me demandais comment on allait montrer que le temps s'écoule. Ça, c'était ma préoccupation de metteur en scène sur le plateau, alors que c'était moins problématique dans l'écriture. Et on a trouvé cette façon de le faire avec une musique qui est décontextualisée, qui n'est pas la musique qui fait référence au grand-père ni au jeune homme. Donc c'est autre chose. Et puis cette musique est inscrite dans un courant de l'histoire de la musique contemporaine qu'on appelait les minimalistes américains. Et donc du coup il donnait l'essentiel en très peu de notes.
Ah oui, mais c'est super. Alors à la lecture de la pièce, j'avais ressenti un grand-père plus bourru et plus dur, en fait, qu'il n'y paraît dans le spectacle, en ce qui me concerne. Et je dirais même, là, je le trouve un peu grand-père gâteau. Je l'avais imaginé plus dur. Et du coup, à mon sens, ça a tenu un peu le conflit générationnel. Et je voulais vous demander pourquoi...
Parce que j'ai choisi l'amour, en fait. Parce que ce grand-père, il vit seul. Et donc j'ai souhaité qu'il ait un regard de sagesse dans le fond sur cet adolescent qu'il a, et pas un regard menaçant, enfin l'homme qui sait tout et qui voilà. Donc parce qu'il a comme il a une faille en lui, il a une première faille qui est son histoire personnelle, puis une deuxième faille qui est la perte de sa femme qu'il a accompagnée durant toute sa vie. Et donc du coup j'ai dit cet homme là en fait il se montre au début bourru et c'est volontairement qu'il fait preuve d'autorité et de fermeté devant cet adolescent, mais qu'après dans le fond et même pendant ce temps là il laisse échapper des regards de tendresse, il laisse échapper tout ça. Il n'a plus rien à prouver. Il n'a plus rien à prouver, cet homme. Il veut retrouver la paix en lui. Il ne sait pas encore, au début de la pièce, qu'il va pouvoir la retrouver avec cet enfant. Je pense que c'est papy gâteau, d'une certaine manière, mais c'est tout simplement pour, je pense, raconter la partie sombre de ce personnage. Et qu'on n'imagine pas que cet homme-là a pu aller très loin dans des choses d'une terrible, quoi.
En fait, oui, vous favorisez un décalage encore plus fort.
Évidemment, puisque c'est un, dans le fond, c'est un brave homme.
Bien
il
sûr,
est bon, et puis, soudain, quand il se met à parler des parties très sombres de son humanité. Ouais. Voilà. Et mais il est à notre image. Mmh. Il est vraiment à notre image, parce qu'on peut être quelqu'un de très tendre, de très affectueux avec ses enfants, et on l'a vu dans l'histoire, on voit bien les grandes images de ces monstres qui étaient, voilà, qui dirigeaient les grands camps de concentration, et puis qui écoutaient de la musique classique, qui caressaient leurs enfants, qui aimaient leur épouse, qui aimaient leur chien, et puis qui n'hésitaient pas à enfourner des centaines de cadavres, enfin de vivants, pour en faire des cadavres, voilà, donc dans les charniers. Donc ça c'est, je trouve que c'est important aussi de le préciser, quoi.
Comment s'est opéré le choix des communions ?
Il s'est opéré de manière assez simple, dans le fond. Je n'ai pas choisi deux acteurs, mais j'ai essayé de construire un duo. Et c'est plutôt le troisième terme qui est plus intéressant, ce duo, qui s'invente à partir de deux autres, que j'ai cherché à trouver. Et donc c'est là où j'ai mis des gens en face. Et quand j'ai senti que ça allait... il allait produire un nouvel être qui était le duo.
Ouais.
Ben, du coup, j'ai dit, oui, c'est la bonne distribution, c'est celle-là qui marche. Ouais,
complètement. Hein. Ils sont vraiment étonnants de naturel.
Et puis, et de complicité, parce que du coup, voilà, après, c'est un petit feeling, il fallait sentir que ces deux-là allaient s'entendre sur le plateau et dans la vie. Et c'est ce qui se produit. Il y a des dimensions affectueuses, parce qu'il y a une très grande différence d'âge entre eux. Et cette différence d'âge, on la voit sur le plateau, mais on la voit aussi dans la vie, quoi. Donc, il y a une belle amitié qui est partagée. Et c'est formidable pour le spectacle.
C'est sûr. Ben pour conclure, alors vos projets, alors peut-être donc la suite, la tournée après la tempête.
Oui, alors la tournée après la tempête qui se poursuit là au mois d'avril à Saint-Étienne.
Ouais.
Et puis à plaisir, et une reprise de ce spectacle la saison prochaine en tournée encore. Et puis je suis sur un parcours où j'ai écrit une précédente œuvre qui s'appelait Illumination, avec des jeunes hommes vivant dans les quartiers populaires et qui retracent leur histoire personnelle. Et donc c'est lié aussi à ce parcours sur la mémoire et sur l'histoire des 50 dernières années. Et je prépare le volet numéro 2 de cette aventure-là, qui globalement s'appelle Face à leur destin.
Ouais.
Et je marche dans la nuit par un chemin mauvais, c'est inscrite dans ce cheminement là. Donc voilà, donc ça c'est pour 2015 avec.
Donc là, à l'écriture uniquement.
Non.
Ou en théâtre.
Oui, non, bien sûr. Ouais, j'écrirai cette pièce là, le titre n'est pas encore trouvé.
D'accord.
Ce sera qu'avec des jeunes femmes. Et ça va se faire quand j'aurai l'équipe et je travaillerai sur le plateau, quoi.
Voilà. Bon, bah, écoutez, merci beaucoup pour cet entretien passionnant.
Merci.